SBS Radio.
L'Australie n'enverra pas une délégation officielle à la Coupe du Monde en Russie. La Chine dément un durcissement de ses relations douanières avec l'Australie. Et le président Emmanuel Macron au Canada en marge du sommet du G7 qui promet d'être houleux. Le gouvernement australien a décidé de ne pas envoyer une délégation officielle à la Coupe du Monde de Russie. Ainsi, Canberra s'aligne sur le Royaume-Uni qui exerce également un boycott officiel de ce tournoi. En général, des délégations officielles et des chefs d'État ou de gouvernement participent aux matchs d'ouverture et à la finale de la Coupe du Monde. Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères australienne, déclare que le gouvernement fédéral ne va pas se mêler dans les décisions prises par la Fédération australienne de football de participer au tournoi. Elle souligne en passant que l'ambassadeur d'Australie en Russie assistera quand même au match des Socceroos. On se souvient que Canberra accuse Moscou d'entorse aux droits de l'homme et de violation du droit international. On cite notamment les cas de l'annexion de la Crimée ainsi que la destruction du vol MH17. Selon le ministre chinois des Communications, les relations entre son pays et l'Australie sont bonnes. Déclaration qui tombe au moment où des viticulteurs australiens déclarent avoir observé des longs délais dans les douanes chinoises. Une demi-douzaine de viticulteurs australiens signalent qu'ils ont vu un ralentissement des procédures douanières en Chine, ce depuis que le premier ministre Malcolm Turnbull a accusé la Chine d'ingérence dans les affaires australiennes. Les viticulteurs ont eu des pourparlers avec la vice-ministre de l'Agriculture, Madame Anne Roston, lui demandant d'intervenir pour faire baisser les tensions commerciales. Madame Huan Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, affirme quant à elle que les délais observés font tout simplement partie des procédures douanières normales.
Customs in any country can carry out spot checks on some products from relevant companies. This is normal enforcement behavior. The aim is to protect consumer rights. As I've said, communication between the two countries' customs is smooth.
Il faut souligner que ces derniers mois, Beijing évite les officiels australiens et ceci fait croire que la visite annoncée du Premier ministre Malcolm Turnbull en Chine à la fin de cette année pourrait être purement et simplement annulée. Et les autorités australiennes pourraient interroger Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Facebook est accusé en effet d'avoir échangé des données personnelles des usagers australiens avec le géant chinois Huawei. Selon le journal The Australian, le sous-directeur de la commission parlementaire sur la sécurité et l'espionnage, le député travailliste Anthony Byrne, le patron de Facebook, doit des explications aux usagers australiens. Selon le journal The Australian, les déclarations de M. Byrne attestent celles du directeur de la commission parlementaire, le libéral Andrew Hastie. Le journal affirme qu'au besoin, Mark Zuckerberg sera convoqué lors d'une séance publique de la commission parlementaire sur l'espionnage et la sécurité. En France, l'Assemblée nationale s'attaquera ce jeudi aux fake news. Ces fake news, ce sont ces fausses informations qui se répandent via les réseaux sociaux et empoisonnent la vie publique. Deux propositions de loi seront présentées aux députés ce jeudi. Les deux propositions de loi sont présentées par le groupe parlementaire La République en marche et visent à lutter contre la manipulation de l'information, surtout en période électorale. Pour la majorité présidentielle, il s'agit de combattre un fléau qui se répand grâce aux nouvelles technologies. Les fake news auraient notamment perturbé les élections présidentielles aux États-Unis et en France, ainsi que le référendum sur le Brexit. Il faut souligner que ces changements sur les Facebook sont voulus par Emmanuel. Ces fake news, donc, changements voulus par le président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est arrivé hier au Canada pour une visite officielle des deux jours avant sa participation à un sommet du G7. Un sommet qui promet d'être houleux depuis surtout la décision de l'administration Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium en provenance notamment de l'Union européenne et du Canada. Le président français devait rencontrer hier à son arrivée à Ottawa le premier ministre canadien Justin Trudeau avant de s'envoler ce jeudi pour Montréal où il rencontrera le premier ministre du Québec Philippe Couillard. et ces deux rencontres seront très largement consacrées à la préparation du sommet du G7. Et le gouvernement populiste italien est bel et bien sur les rails. Le premier test international pour le Premier ministre Giuseppe Conte, ce sera lors de son déplacement ce vendredi au Canada pour le sommet du G7, justement. Un sommet où s'annonce un front anti-Trump. Explication, Anne Lemire pour RFI.
Avant son départ pour le Canada, Giuseppe Conte a déclaré, je cite, « La première chose pour l'Italie sera de se faire connaître et la seconde, de se faire respecter ». Mais le nouveau gouvernement italien, fier de se revendiquer populiste, entend mettre en œuvre un programme très anti-austérité et donc susceptible d'inquiéter ses partenaires. De même que certains projets font un peu frémir. Parmi ces derniers, les mesures drastiques contre les migrants économiques ou encore le renforcement de la loi sur la légitime défense. On a d'ailleurs observé la plus grande préoccupation parmi les députés de centre-gauche. Le chef de groupe du Parti démocrate, Graziano Del Rio, a vivement conseillé à Giuseppe Conte d'étudier ces dossiers et de ne pas être seulement l'homme de paille des vice-présidents du Conseil, Matteo Salvini, leader de la Ligue, et Luigi Di Maio, chef politique du mouvement 5 étoiles, tous deux très ouverts à la Russie de Vladimir Poutine.
Et le ministre tunisien de l'Intérieur a été démis de ses fonctions tôt ce matin. Un communiqué officiel indique que dans l'intérim, les fonctions du ministère de l'Intérieur seront assurées désormais par le ministre de la Justice. Aucune raison n'a été annoncée pour ce limogeage, mais comme le souligne Alexandra Branjon dans une correspondance pour RFI, des malversations dans les dossiers migratoires seraient derrière ce limogeage.
Trois jours après le naufrage au large de Kerkena, l'un des pires depuis le début de l'année, les têtes continuent de tomber. Au total, une dizaine de responsables de la Sûreté nationale et de la Garde nationale a été limogé aujourd'hui. Et cet après-midi, c'était au tour du ministre de l'Intérieur, Lotfi Brahim. Officiellement, aucune raison n'a été donnée pour son départ, mais ce drame en mer a révélé un laisser-faire, voire une complicité des services de sécurité sous l'autorité de Brahim, avec des réseaux de passeurs. Son départ était donc à prévoir, d'autant plus que ses relations avec le Premier ministre Youssef Chahed s'étaient passablement détériorées ces derniers mois, avec notamment un différend au sujet de sa visite en Arabie Saoudite. Certains observateurs estiment donc que ce naufrage permet au Premier ministre de faire le ménage au sein de son gouvernement.
Et Israël demande aux autorités du football mondial d'enquêter sur les menaces qui auraient pesé contre des joueurs argentins. Des menaces qui auraient conduit à l'annulation des matchs de football qui devaient se jouer à Jérusalem. C'était un dernier match préparatif de l'Argentine pour la Coupe du Monde et ce match devait se jouer au départ dans la ville côtière de Haïfa. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait insisté que ce match se joue plutôt à Jérusalem. Ce changement avait suscité des vives critiques émanant notamment de l'Association palestinienne de football. Explication des dessous de cette polémique avec Guilhem Deltay de RFI depuis Ramallah.
Devant la représentation diplomatique de l'Argentine à Ramallah, le président de la Fédération palestinienne de football avait fait venir une fanfare et des enfants brandissant des pancartes remerciant le pays d'avoir annulé cette rencontre. Aux yeux de ce responsable palestinien, la décision israélienne de disputer ce match à Jérusalem et non à Haïfa comme prévu initialement dans le contexte actuel était extrêmement politique.
Déplacer ce match de Haïfa à Jérusalem et dire que c'est à l'occasion du 51e anniversaire de la libération de Jérusalem, la nouvelle résolution de ce gouverneur militaire du monde fou, Trump, c'est une rupture, un défi, une provocation pour tout le monde.
Djibril Rajoub rappelle que selon les accords d'Oslo, le statut de Jérusalem, Est comme Ouest, doit encore être négocié. Et pour lui, cette décision rappelle à Israël le droit international.
Ce qui s'est passé hier est un carton rouge de tout le monde aux Israéliens pour qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de jouer au football à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues.
Une première victoire alors que la Fédération palestinienne de football a échoué à ce que la FIFA exclue les clubs des colonies israéliennes du championnat national.
Et retour en Australie où à la veille du long week-end, les policiers du Victoria ont été prévenus d'éviter de falsifier les alcotests. Faut signaler que les longs week-ends sont l'occasion pour des contrôles routiers renforcés. Et la semaine dernière, on avait appris que les policiers du Victoria avaient falsifié plus de 250 000 résultats de contrôle d'alcoolémie sur une période de 5 ans. Ces révélations avaient conduit à une enquête pour en déterminer les causes. Il y a eu également une réduction du financement de la police du Victoria par le Transport and Accident Commission. On soupçonne que les policiers du Victoria ont falsifié les résultats d'alcotest pour se montrer plus productifs qu'ils ne le sont réellement. Dans une vidéo publiée aujourd'hui par Fairfax Media, le commandant adjoint de la police du Victoria, Doug Fryer, prévient ses effectifs que ces agissements doivent cesser immédiatement.
We are world leaders and continue to be world leaders in road safety, and that includes our drink driving regime. I get that some of you might be worried about what might happen, and more of you are worried about being tarnished with reputational damage around doing false PBTs when you haven't done it. I get it. I hope that you've listened to the message of AC Barrett and the acting chief, Wendy Steenham, that a line in the sand has been drawn and this behaviour has to stop, and it has to stop now.
Et un coup d'œil météo pour ce jeudi à travers les principales villes australiennes. Perth à 16 degrés, Adelaide 17, Melbourne 17, Hobart 13, Canberra 17, Wollongong 20, Sydney 21, Newcastle 21, Brisbane 21, Cairns 26 et Darwin 30 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 65 centimes d'euros. À présent, un rappel des titres de l'actualité. L'Australie n'enverra pas une délégation officielle à la Coupe du Monde en Russie. Et la Chine dément un durcissement de ses relations douanières avec l'Australie. Et le président Emmanuel Macron au Canada en marge d'un sommet du G7 qui promet d'être houleux. C'est tout pour l'actualité. On fait une pause avant de passer au magazine des sports de Jean-Noël Ducasse.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.